Alors, c'est vraiment un grand, grand privilège pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Je sais que ça fait des mois que vous préparez cette convention avec Jamel, que vous priez pour ça et pour cette rencontre. Et ma prière aussi, c'est qu'on puisse avoir des temps très forts pendant ces 2 jours. Et voilà, j'espère aussi pouvoir apprendre à vous connaître davantage, même si on ne se fera peut-être pas des câlins, on ne serra pas la main, mais de pouvoir passer du temps ensemble. Donc juste pour les présentations, donc voilà, Philippe Viguier, j'ai 34 ans, même si j'ai un petit peu le visage d'un gamin. Des fois, il y a des gens qui passent dans mon église et j'ai besoin de demander pardon parce qu'ils me disent « mais non, t'es pas le pasteur, t'es trop jeune ». Je leur dis « non, non, j'ai, mais bon ». Mon épouse me dit que j'ai été maudit avec le visage de la jouvence et de la beauté éternelle. Bon, c'est son avis, je le respecte. Donc c'est rigolo, hein. Je suis né d'un père français, d'une mère américaine qui était missionnaire au Canada. Donc j'ai 3 nationalités, je suis moitié français, moitié américain, moitié canadien et pas bon en maths. Et un truc qui est assez cool, c'est que je suis un pasteur et slash missionnaire de 5 générations. Donc j'ai de la famille partout dans le monde qui sert le Seigneur et ça fait 5 générations que mes ascendants sont dans le ministère. Donc je suis marié avec mon épouse Sophia, on a 3 enfants, Elena, Timothée, Clarisse, 7 ans, 6 ans et 3 ans. Donc je suis né au Canada, j'ai vécu 10 ans là-bas, après on est rentré en France, mon père avait vraiment à cœur sa famille et le ministère en France, donc il est revenu à Toulouse où il est toujours pasteur. Et puis à l'âge de 17 ans, je m'ennuyais, donc je suis parti aux États-Unis. J'ai fait un an de lycée là-bas pour apprendre l'anglais, et après je suis revenu, j'ai vécu 11 ans là-bas en tout, et puis ça fait 5 ans avec mon épouse qu'on est rentré en France. Et voilà, donc je suis parti aux États-Unis pour faire des études et pour faire des enfants. Et là, je suis revenu. Et puis, depuis 5 ans, on a pris la suite. Donc, je ne peux pas dire remplacer parce que Florent Varac, bah, si vous le connaissez, il n'est pas remplaçable. Hein. Il a mis la barre un petit peu haute. Mais c'est un vrai privilège pour, d'avoir pris la suite et de pouvoir être pasteur dans cette église de Villeurbanne. Et c'est vrai qu'on vit des choses super belles. En 6 ans, on a implanté 3 églises. Donc, c'est juste magnifique. De voir comment Dieu œuvre et même après 3 implantations l'église continue de se remplir, de voir des conversions. En décembre on avait 3 baptêmes, on avait 2 nouveaux convertis, un jeune homme Roham qui a quitté l'Iran sous la persécution et qui le jour de son baptême dit voilà j'ai tout perdu mais j'ai Christ et ça vaut la peine. Et là tu dis ouais je suis au bon endroit là. le mois dernier on a eu 2 jeunes aussi qui se sont baptisés, qui s'étaient rebellés aussi loin de Dieu qu'ils pouvaient et qu'ils ont témoigné publiquement en disant « on aime le Seigneur, on veut le suivre ». Et là, la semaine prochaine, on a encore 2 jeunes qui se sont convertis il y a quelques mois et qui vont passer par les eaux du baptême. Et c'est juste merveilleux de pouvoir vivre ça dans l'Église de Christ. Et c'est vrai qu'en grandissant, mon père donc est pasteur, et ce n'est pas vraiment ce que j'avais vu. En grandissant dans la région de Toulouse, j'avais vu des divisions d'Église, j'avais vu des cœurs qui étaient froids, j'avais vu des situations douloureuses. Et puis même en quittant Toulouse, avant d'arriver à Villeurbanne, je suis passé par 5 églises qui ont eu 5 divisions. Et c'est vrai que voilà, dans la vie du chrétien, quand ça va bien, c'est engageant et c'est fatigant. Là, l'église va bien, je suis plus fatigué que j'ai jamais été dans ma vie. Et quand ça va pas, ça demande aussi une énergie pas possible, parce que voilà, émotionnellement, spirituellement, il faut aller de l'avant. Et c'est ce qui nous amène sur le thème d'aujourd'hui, de ce week-end, sur les résolutions et sur l'engagement du chrétien. C'est vrai que l'engagement du chrétien, que ça aille bien dans l'église ou que ça aille mal, finalement, c'est toujours très, 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 ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande un engagement incroyable. Déjà, être humain, je ne sais pas vous, mais c'est épuisant. Il y a quelques jours, ma fille de 3 ans, elle avait un petit rhume et du coup, elle avait mal au ventre pendant la nuit. Elle s'est réveillée pour aller aux toilettes et puis elle s'est endormie dans les toilettes. Mais on pense que voilà, être humain, on consomme quoi ? 2-3 000 calories par jour ? Vous savez qu'en un an, ça correspond à la même quantité d'énergie qu'une tonne de dynamite. Enfin, ça fait 1 000 à 2 000 bâtons de dynamite qu'on déploie en énergie chaque année. C'est fatigant d'être humain. Hein. Et si on prend un groupe de 200 personnes sur une durée de vie moyenne de 70 ans, on aura dépensé l'équivalent d'énergie de la bombe atomique qui a explosé à Hiroshima. Alors on dit, ouais, être humain, c'est fatigant, et en même temps, il y a une compétition pas possible pour notre énergie. Et alors on se dit, mais est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce que ça vaut la peine, finalement, de se donner autant pour l'Église ? Est-ce que ça vaut la peine, semaine après semaine, de venir et participer à la louange, de venir et aider avec les enfants, de préparer des enseignements, de préparer des activités? Est-ce que c'est vraiment utile de faire des cultes personnels, de s'essayer à l'évangélisation, de développer des amitiés dans l'église? Est-ce que ça vaut la peine de donner toute cette énergie? Est-ce que ça vaut la peine de prendre des résolutions pour essayer d'aller de progrès en progrès? Est-ce qu'on voit vraiment la différence? Et c'est vrai, c'est une question que je me pose en permanence, parce que quand on ne voit pas de fruits, on se dit, mais est-ce que ça valait la peine de faire tout ça? Et puis quand on voit du fruit, souvent, la main de Dieu, elle est tellement évidente qu'on dit, de toute façon, il n'avait pas besoin de moi. Enfin, quand je vois des conversions, c'est tellement évident que c'est Dieu qui attire le cœur. Tu dis, bon Dieu, j'ai peut-être dit deux, trois mots, mais c'est toi qui as fait tout le travail. Et alors on se demande, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et aujourd'hui, j'ai juste envie de vous encourager. Alors, on sait que Dieu est souverain et il n'y a rien que... Voilà, tout qui concourt au bien. Et tout notre travail, il n'y a aucun travail qui en va dans le Seigneur. Mais l'engagement chrétien, il n'est pas juste utile, il est beau. L'engagement chrétien, il est beau. Pourquoi? Parce qu'il reflète le plus bel aspect de l'amour de Dieu. L'amour loyal, l'amour persévérant, l'amour fidèle, l'amour résolu. Aux yeux de Dieu, l'engagement chrétien, il est magnifique parce que c'est comme ça que lui, il aime. Dieu, il aime avec un amour qui est engagé. Et je vais vous dire, cet engagement, il est d'autant plus beau qu'on vit dans une génération où il n'y a plus d'engagement. Et ce n'est pas que les gens déploient moins d'énergie. On déploie autant d'énergie qu'on veut, pour que ce soit pour l'église, ou que ce soit pour les loisirs, ou que ce soit pour la débauche dans notre génération. Et on est tous fatigués à faire ce qu'on aime faire. Mais les notions de loyauté, d'engagement sont en train de disparaître. On le voit dans les familles qui explosent, on le voit dans les amitiés profondes qui sont de plus en plus rares. On le voit dans l'engagement dans l'église. La richesse de l'amour et de l'engagement que nous vivons dans nos églises est d'une valeur magnifique qu'on ne peut pas sous-estimer. Et c'est quelque chose qu'il faut combattre pour garder. On le sait, la compétition pour notre attention, elle est féroce. On vit dans une société dont l'allure accélère constamment. Les distractions doivent être combattues presque à la seconde. Les divertissements addictifs sont à notre portée à chaque instant, par les supports médias entre autres. Et en plus, on doit combattre avec notre propre inefficacité, notre propre stupidité. Comme moi ce matin, j'avais 20 minutes pour aller dans le train et j'ai pris le mauvais métro. Du coup, j'ai dû prendre ma valise et courir de toutes mes forces pour arriver dans le train 30 secondes avant que les portes se ferment. C'est fatigant d'être engagé. Mais être engagé à fond dans l'œuvre de Dieu, ça en vaut la peine. Et c'est ce que j'aimerais qu'on regarde cet après-midi. Et j'aimerais qu'on ouvre nos Bibles en 2 Corinthiens 5. Et je vais me pencher juste sur deux versets. Mais pour donner un peu de contexte, on va lire des versets 12 à 17. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles ou vos smartphones, ou à simplement lire avec moi, à écouter, en 2 Corinthiens 5, versets 12 à 17. Donc Paul écrit cette deuxième lettre aux Corinthiens pour défendre son apostolat, qui est sous les critiques, mais aussi vraiment pour se recentrer sur le message de l'Évangile. Et pour montrer aux Corinthiens la fierté qu'on a d'être chrétien. Je vous invite à lire donc 2 Corinthiens 5, versets 12 à 17, c'est la parole de Dieu. « Nous n'allons pas de nouveau nous recommander nous-mêmes auprès de vous, mais nous voulons vous donner l'occasion de vous montrer fiers à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui mettent leur fierté dans les apparences et non dans ce qui relève du cœur. En effet, si nous avons fait preuve de folie, c'était pour Dieu, et si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. » Et là, Paul nous donne sa motivation. Pourquoi est-ce qu'il œuvre pour Dieu? Il veut dire, c'est que l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine. Et si nous avons conçu Christ de manière purement humaine, maintenant nous le connaissons plus ainsi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, Paul va défendre un petit peu son apostolat, mais il va mettre ses motivations à nu. Quelques versets plus tôt, il va dire, « Moi, mon désir, c'est d'être agréable en tout au Seigneur. Mon désir, c'est de plaire au Seigneur. » Et là, il va dire aux Corinthiens, le but de la vie chrétienne, de notre engagement, c'est on est fiers de ce qu'on fait pour Dieu. Et au cœur de ce passage, les versets 14 et 15 sur lesquels on va se pencher, c'est que l'amour de Christ nous presse parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Paul va nous donner trois motivations puisées dans notre identité en Christ pour être résolus et engagés dans notre service pour Dieu. Et la première chose que Paul nous partage, c'est que l'engagement du chrétien, il est beau parce que c'est le reflet de l'amour de Christ en nous. Christ, dans son amour, il est engagé. Et quand on montre un amour engagé, on est en train d'imiter Christ. En fait, c'est l'identité du chrétien. Enfin, Paul dit, on est une nouvelle créature. Et il va dire, une fois que t'es chrétien, t'es obligé d'aimer. Enfin, dans la Bible, c'est clair. En 1 Jean, Jean écrit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Une fois qu'on a reçu cette nouvelle identité d'avoir Christ en nous, on est sous pression d'aimer. Et Paul, il va dire, verset 14, l'amour de Christ nous presse. Littéralement, en grec, ça veut dire de contrainte ou de lier. L'amour de Christ, il nous oblige, il nous attache. Il nous met sous pression d'aimer. Notre nouvelle identité en Christ, c'est qu'on est, si on veut ressembler à Christ, si on veut vivre cette identité que Christ nous a donnée, on est sous pression de mettre en pratique l'amour. L'amour engagé, l'amour loyal. L'amour loyal, c'est comme ça que Jésus a aimé. C'est ce qu'on voit dans la Bible. Jésus a enseigné que le plus grand amour, c'était l'amour loyal. Qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples ? Qu'il n'y avait pas de plus grand amour que de faire quoi ? Que donner sa vie pour ses amis. C'est vrai que je me suis souvent gratté la tête avec ce verset. En me disant, mais franchement, c'est pas plus difficile d'aimer quelqu'un qui m'aime pas. Il s'est pas un peu trompé, Jésus ? Non, quand même pas. Mais aimer un ennemi, c'est quelqu'un avec qui ça frite, c'est difficile. Mais aimer un ennemi, on ne peut pas le faire de manière profonde parce qu'on peut simplement le faire de manière ponctuelle parce qu'il n'y a pas de relation. Mais quand il y a une relation, il n'y a pas de fin dans l'investissement qu'on peut donner à cet amour. C'est pour ça que Jésus, l'amour avec lequel il aime et l'amour qui nous encourage à imiter, c'est un amour qui est fondé sur une relation. Les échanges sont constants, qui permet d'avoir une profondeur de plus en plus grande, sans limite. En étant dans une relation avec Dieu, Dieu peut nous aimer à chaque instant. Et il y a un terme dans l'Ancien Testament qui décrit l'amour loyal. Le mot qu'on a chanté dans le premier chant, « immense est ta bonté ». Le mot « resed » en hébreu qui pourrait traduit par « amour loyal ». Et quand on résume le caractère de Dieu dans l'Ancien Testament, on trouve ces deux mots. La bonté de Dieu et sa fidélité. Que Dieu, il fait preuve d'amour, de bienveillance, mais que c'est constant. Qu'à chaque instant, cet amour, il est constant. Et c'est frappant que ce mot recède dans l'Ancien Testament. Je l'ai compté plus de 400 fois. Il n'est jamais adressé à des non-croyants. C'est quand même frappant. Même quand on regarde le psaume 117, il y a une invitation à toutes les nations en disant « Venez tous les peuples, célébrez Dieu, car sa bonté envers nous est grande. » Parce qu'il y a une relation spéciale dans l'amour résolu, dans l'amour engagé qu'on ne peut imiter nulle part autre. Et ce n'est pas que Dieu n'a pas d'amour pour les non-croyants, on sait qu'il fait pleuvoir sur le méchant comme sur le bon, mais l'amour qui fait preuve d'une relation, qui est dans le cœur d'une alliance, dans le cœur d'une relation, est beaucoup plus profond. C'est d'ailleurs intéressant que les mots bonté et fidélité, cette paire-là, qui est les mots clés qu'on voit quand Dieu révèle sa gloire à Moïse, qu'on voit dans les psaumes, qu'on voit dans tout l'Ancien Testament, finalement, on ne retrouve pas cette paire dans le Nouveau Testament. Bonté et fidélité. Mais quand on regarde un petit peu dans les traductions, c'est frappant que quand l'Ancien Testament a été écrit en grec, les mêmes mots grecs qui sont utilisés dans le Nouveau Testament pour traduire bonté et fidélité, vous savez c'est quel mot ? Grâce et fidélité. Grâce et fidélité. Et c'est ce qu'on voit en Jean chapitre 1, verset 14, quand Jean décrit que Jésus est venu, la parole s'est faite chair, pleine de grâce et de vérité. Il utilise les mêmes mots de l'Ancien Testament, pleins de bonté et de fidélité. Par la nouvelle alliance, Jésus s'est engagé à nous aimer de manière loyale. Et l'amour qu'il nous demande d'imiter, c'est aussi cet amour loyal. Et quand je regarde à cette paire de mots, je peux vous dire, il n'y a pas de vérité biblique qui me donne plus de la chair de poule que la bonté de Dieu et la fidélité de Dieu mis l'un à côté de l'autre. Parce que quand on regarde la définition de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, ben on le voit à la croix. La passion que Dieu délivre, l'intensité que Dieu délivre à la croix, c'est juste surprenant. Mais de savoir que Dieu nous aime comme ça à chaque instant de chaque jour qui passe, c'est juste fou. C'est juste fou de savoir que la passion révélée à la croix, c'est le même amour parce que Dieu est loyal et parce que Dieu est fidèle. C'est comme ça qu'il aime. Dieu enseignait que le plus grand amour, c'était celui qui est dans les relations, celui qui est dans l'engagement. On voit aussi dans son ministère que Jésus, il a préféré accomplir les promesses de Dieu plutôt que d'avoir un ministère visible. C'est quand même frappant, des fois, Jésus, il a des grandes opportunités, que les gens viennent des autres nations pour lui demander de venir prêcher, pour lui demander de faire des miracles. Et plusieurs fois, quand les païens viennent voir Jésus, Jésus va répondre, non, je suis venu pour faire quoi ? Pour sauver les brebis perdues d'Israël. Et Jésus a privilégié la loyauté plutôt que les opportunités de grandeur dans le ministère. Il a privilégié être fidèle aux promesses que Dieu avait faites d'envoyer un Messie pour le peuple d'Israël. Et ce n'est pas que Dieu ne se soucie pas des païens, ça c'était la mission pour les disciples. Mais l'amour le plus profond, c'est celui qui est fidèle à ses promesses. Celui qui est loyal, celui qui est engagé, celui qui est résolu. Et c'est comme ça que Dieu aime dans la Bible. La Bible, c'est rempli de promesses. Des promesses de paix, des promesses de bonheur, des promesses d'amour. Alors on pourrait dire, ouais d'accord, ben, Dieu c'est facile pour lui de faire des promesses et d'être engagé, c'est Dieu. Lui il est parfait, c'est facile de tenir sa parole. Mais nous, s'engager c'est dur parce qu'on change, nos circonstances changent, on n'est pas vraiment au contrôle de tout. Est-ce que nous on peut vraiment faire des promesses ? Et c'est frappant de regarder un petit peu dans l'histoire de la Bible quand c'est qu'arrive la première promesse. Quand est-ce que Dieu fait la première promesse à Adam et Ève ? Quand tout va bien ? Non. Ils n'avaient pas besoin de promesse. Ils avaient déjà tout. Ils n'avaient pas besoin de l'assurance que malgré leur faiblesse, ils pourraient avoir un futur. Quand est-ce que Dieu fait la première promesse ? Il fait la première promesse une fois que le péché est entré dans le monde. Pourquoi ? C'est parce que la meilleure manière d'aimer un pécheur, c'est de lui promettre un futur. Et l'amour le plus adapté pour un pécheur, c'est l'amour qui est engagé. Et c'est ce que je dis à chaque fois que je célèbre un mariage. On a plein de jeunes couples dans notre église. Et je le rappelle à chaque fois, la meilleure manière d'aimer un pécheur, c'est par l'engagement. De savoir que même si nous, on a des fautes, on a des faiblesses, on va tomber, il y a quelqu'un qui sera encore là à côté de nous pour nous soutenir, pour tenir bon, pour nous encourager. L'amour le plus adapté pour des pécheurs, c'est l'amour de l'engagement. Et c'est comme ça que Dieu nous aime. Dans ce passage, quand Paul écrit « L'amour de Christ nous presse », il utilise le mot grec « agapé ». Et bon, c'est la même sémantique, c'est des synonymes. Des fois, on utilise « philéo », qui est plus l'amour des émotions, « agapé », plus l'amour de la volonté. L'amour qui s'engage. Pas juste l'amour qui a ses petits frissons mignons, mais l'amour qui s'engage même malgré les obstacles. C'est comme ça que Dieu a aimé. Et c'est pour ça que c'est tellement beau quand on met en pratique l'amour de l'engagement, semaine après semaine, jour après jour, année après année, pour la gloire de Dieu. Et puis on voit aussi que une des images les plus belles de l'amour de Dieu, c'est dans ce symbole de la relation que Christ a avec nous comme celle d'une épouse. Le comble de l'amour de Jésus, c'est manifesté dans l'image que la Bible nous donne, qui part de l'Église comme l'épouse de Christ pour qui il a tout sacrifié. Jésus aime l'Église comme une épouse. Et c'est vrai, la Bible ne nous encourage pas à multiplier les alliances et les promesses qu'on ne peut pas tenir. Mais pour le mariage, c'est différent. Pour le mariage, c'est différent. C'est un engagement privilégié sur terre qui nous permet d'avoir une relation extrêmement profonde pour pouvoir aimer d'une manière unique. Et ça, c'est ce que Dieu a établi avec nous. Dieu a établi ce genre de relation avec nous. Il a établi une alliance dans laquelle lui, il s'engage d'avoir un amour unique, consacré, de nous aimer comme une épouse, comme personne d'autre. Et c'est l'amour qui nous encourage à imiter. Il y a 3 ans après la naissance de ma dernière, mon épouse la tenait dans ses bras et mon fils de 2 ans à l'époque n'arrêtait pas de l'embêter, lui manquait de respect et était dans ses pattes et refusait de lui obéir. Et moi j'étais dans le salon sur l'ordinateur en train de travailler et je captais rien de ce qui se passait, j'étais vraiment dans mon monde. Jusqu'à ce que ma fille de 5 ans, Elena, vienne me regarder avec ses yeux bleus perçants. Et elle me regarde et elle me dit « Papa, je fais quoi ?» Elle me dit « Papa, tu vas vraiment laisser quelqu'un traiter ta femme comme ça ?» Imaginez la claque, hein, ma fille de 5 ans. Mais c'est vrai, j'ai fait des promesses à ma femme, j'ai fait un engagement et là j'étais absent. Et je ne remplissais pas mon rôle. Et quelque part, quand on est engagé dans une alliance, il y a des privilèges qui sont géniaux, mais c'est aussi... Ça vous demande aussi un engagement. C'est comme ça que Dieu nous aime. Et c'est comme ça aussi qu'il nous appelle à l'aimer à lui. L'amour de Dieu nous presse. L'amour de Dieu nous met sous pression. Et c'est quand même un paradoxe, parce que souvent, quand on parle d'être sous pression, d'obligation, on se dit « Ah là, on entre encore dans le légalisme, ça, j'en ai pas envie. » Mais c'est quand même ironique que Paul va dire que contre l'amour, il n'y a pas de loi. Il va aussi dire en Colossiens 3, 14, par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de quoi ? De là, ça commence avec P et ça finit avec perfection. Le lien de la perfection. Alors oui, l'amour de Christ nous oblige, nous lie, mais c'est pour nous mener vers l'épanouissement le plus total. Pour nous mener vers la liberté la plus totale. Pour nous mener aux plus grandes bénédictions de Dieu. Quand on s'engage à suivre Dieu par amour, pas par légalisme, par obligation, parce qu'on a mauvaise conscience, parce qu'on se sent obligé de le faire par des pressions malsaines, mais quand on le fait par imitation de l'amour loyal de Dieu, c'est juste libérateur et c'est magnifique. Mes parents, ils sont partis sur le champ missionnaire, ils avaient 23 centimes dans leur compte en banque. Ils voulaient s'engager et ils n'avaient pas les moyens. Mais ils avaient l'amour pour Dieu, pour les âmes perdues, ils sont partis au Québec. Ils ont œuvré pendant 15 ans pour gagner des âmes, implanter une église. Et en grandissant, j'ai vu l'engagement de mes parents et ça m'a tellement inspiré. Enfin, on n'avait souvent rien, je viens d'une famille de 6 enfants et on vivait sur un tout petit salaire. Et pourtant, j'ai jamais manqué de rien. Quand on s'engage, Dieu aussi, lui, il est engagé. J'ai un ami qui m'a dit un jour, essaie de donner à Dieu plus que ce qu'il te donne. Et je l'ai pris au mot. Quand j'étais étudiant, je suis parti aux États-Unis, ça coûtait 30 000 l'année. 30 000 euros. Et j'avais pas un centime. Hein. Et du coup, je disais, ok, Dieu, si tu me donnes de l'argent, moi, je garde 100 euros dans mon compte en banque au cas où j'ai besoin d'acheter des céréales. Et tout le reste, je te le donne. Et c'est quand même, enfin, c'était frappant de voir qu'après mes 4 ans d'études à l'université, j'ai eu des bourses, j'ai eu des dons, j'ai pu payer tout, j'ai fini sans aucune dette, en ayant donné des milliers d'euros à la mission, à l'église et aux gens dans le besoin. C'est fou quand on s'engage et Dieu, il est toujours plus engagé que nous, on l'est de toute façon. Mais c'est comme ça que Dieu aime. Et l'engagement du chrétien, il est beau parce que c'est le reflet de comment Dieu, lui, il aime. Et si vous êtes engagé dans l'Église, je sais que vous l'êtes. Et semaine après semaine, vous vous donnez de vous-même. Et peut-être vous êtes fatigué. Moi, je veux juste vous encourager. Parce que non seulement c'est utile, mais c'est beau. Parce que c'est le reflet du cœur de Dieu. Quand on est bien motivé. L'engagement chrétien, il y a la beauté qui émane l'amour de Christ. Mais l'engagement du chrétien, c'est aussi la beauté des convictions de Christ en nous. C'est la beauté des convictions de Christ en nous. Paul va dire, c'est que l'amour de Christ nous presse parce que nous sommes quoi ? Parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Le mot convaincu, en grec littéralement, vient du mot jugé. Paul ne parle pas d'une zone floue. Il y a eu une analyse et il y a eu un verdict. Paul nous dit que la raison pour laquelle l'amour le presse, c'est qu'il a réfléchi à qui il est, à son identité. Il n'y a juste pas d'autre solution en fait. Il a été saisi par Dieu, il a eu un verdict qu'il n'y a rien d'autre qui compte que d'être poussé par cet amour de Christ pour œuvrer, pour faire la volonté de Christ. Et son raisonnement, c'est que si Christ est mort pour nous, c'est pour que notre volonté à nous, notre volonté propre, elle soit crucifiée. C'est pour nous permettre d'entrer dans la volonté de Dieu et d'œuvrer dans le plan de Dieu. J'ai un de mes profs en faculté de théologie qui s'appelait Alex Montoya. C'est un hispanique, donc j'étais à Los Angeles. Il avait l'allure fière, passionné, courageux, ferme, un évangéliste avéré, mais aussi un grand prédicateur. Son église, il y a déjà 5 ans, avait déjà implanté 14 églises. Un homme de grand calibre, mais qui était aussi humble et à l'écoute. Et en classe, il nous disait souvent, un homme peut porter des opinions, mais ce sont les convictions qui portent un homme. Un homme peut porter des opinions, mais ce sont les convictions qui portent un homme. On a mentionné les bonnes résolutions qu'on prend souvent. J'ai lu des statistiques par un certain Michael Hayat qui disait que 95% des gens qui prennent des résolutions pour perdre du poids le reprennent après. C'est encourageant, hein ? Mais quelque part, quand Paul parle de la marche chrétienne, c'est, on se dépouille, on enlève pour se revêtir et quelque part, il y a du sacrifice, mais il y a aussi l'anticipation que ça en vaut la peine. Et quelque part, on aime bien manger, on aime... Le beurre, c'est bon quand même. Le sucre, ouais, ça fait plaisir. Et on se dit, mais est-ce que finalement, être en bonne santé, ça vaut plus la peine que perdre quelques kilos ? Non, finalement, mon gras, je l'aime bien. Et si on n'a pas la conviction qu'être en bonne santé, c'est mieux qu'un peu de gras, finalement, on se dit, on mange bien, on vit bien. Parce que... Parce qu'il faut des convictions pour aller de l'avant. Pas juste des opinions. Pas juste des sentiments. Il faut être porté par des convictions qui nous saisissent dans les tripes. Sans conviction, on va souvent choisir la voie la plus facile, au détriment du chemin plus exigeant et peut-être aussi plus rémunérateur. Mais sur le terrain où les enjeux sont éternels, les opinions, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Pour faire la différence, il faut être un homme ou une femme de conviction. Et Paul va le dire, c'est une question de vie ou de mort. Et c'est ce qu'on voit dans le reste des Écritures. À chaque fois que je prêche, je me souviens de ce verset en Deutéronome 30, 15 à 16. Où Moïse, quand il reçoit la parole, Dieu lui dit, « Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin de vivre et de multiplier, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. » Notre engagement pour Christ, c'est la vie ou la mort. Soit on est dans la volonté de Dieu et c'est la vie en abondance, soit on est à l'extérieur de la volonté de Dieu et là il n'y a aucun futur. Tout ce qui sort du plan de Dieu, il n'y a juste aucun futur. Paul avait compris cet enseignement qui déjà datait de Moïse. La vie chrétienne, c'est une question de mort, de vie ou de mort. C.S. Lewis, l'auteur des Chroniques de Narnia, disait « Vous ne savez jamais à quel point vous croyez en quelque chose jusqu'à ce que sa vérité ou son mensonge devienne pour vous une question de vie ou de mort. » Mais là, Paul, il parle de mourir à soi-même, d'être crucifié avec Christ. Pour que Christ vive en nous, c'est pas une petite décision. Ça ne peut pas se faire juste sur des opinions. Ça doit se faire sur des convictions qui nous portent. Mais c'est quoi vos convictions? C'est quoi nos convictions? On vit dans un monde où il y a très, très peu de convictions. Notre génération fuit loin des engagements. Et peut-être on a, avec l'âge de l'Internet, on a plein de connaissances maintenant sur plein de choses. Mais quelles sont les convictions qui nous portent? Quelles sont vos convictions sur la prière? Sur la gloire de Dieu? Sur la vie de famille? Sur votre rôle en tant que père, en tant qu'enfant, en tant qu'oncle, en tant que conjoint? Sur le caractère que Dieu demande? Sur les relations sexuelles? Sur vos responsabilités? Votre travail, vos dons spirituels? Le discipulat? La souffrance? Quelles sont vos convictions? Quelles sont les choses qui vous portent et qui vous poussent vers l'avant? Et si vous deviez faire aujourd'hui un disciple, quelles seraient les convictions que vous lui partagerez? Et quelles seraient les convictions que lui verrait en vous, qui l'inspirerait à imiter? Le problème, c'est que Dieu, il a créé le monde bon. C'est vrai qu'il y a tellement de bonnes choses dans notre monde qui sont des distractions. Et on peut facilement se focaliser sur des bonnes choses que Dieu a créées plutôt que ce qui est peut-être meilleur et surtout ce qui est éternel. Le psalmiste disait au psaume 119, verset 37, « Détourne mes yeux de ce qui est sans valeur. Fais-moi vivre dans tes voies. » Son désir, c'était de vivre pleinement dans les voies de Dieu. Et même s'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein, on le sait, hein, chaque génération, on recycle les mêmes choses avec un nouvel emballage, des nouvelles distractions, des nouvelles tendances, et on les recycle comme si c'était nouveau. Et puis on regarde, on compare toutes les nouveautés du monde, et puis on regarde, ouais, lire la Bible, prier, c'est routinier, quoi, c'est banal, c'est pas excitant. Alors qu'il y a tellement de choses excitantes dans le monde qui nous entoure, des choses nouvelles, qui finalement, quand on regarde à l'histoire de l'humanité, ne sont pas nouvelles. Mais est-ce que la Bible parle de routine? Est-ce que vous voyez le mot routine une seule fois dans la vie spirituelle de la Bible? La routine, pour moi, c'est quand je fais la vaisselle. Je prends une assiette, je la nettoie, je la mets de côté. J'ai 3 enfants et qui ne font pas la vaisselle, et j'ai une épouse qui a une maladie auto-immune, elle ne peut pas rester debout très longtemps, donc elle ne fait pas non plus la vaisselle. Donc j'en fais des assiettes. Et chaque jour, je refais les mêmes assiettes, 3 fois, les mêmes assiettes. Et les assiettes sont de plus en plus cassées, puis un jour, je les mets à la poubelle. Mais la routine, ça va vers le bas que vers le bas. Dieu, il parle de sanctification, de perfectionnement. Ça, c'est sa manière de voir les choses. Si on le met en langage de vaisselle, c'est tu prends une assiette, tu la laves, et le lendemain, elle est encore plus belle. Et après, tu la laves encore, et il y a encore plus de décoration, plus de couleurs. Et le lendemain, tu fais pareil, tu la laves, et elle est encore de plus en plus belle. Ça, c'est la sanctification. Paul, il parle au verset 17 que nous sommes une nouvelle créature. Mais le verset juste, au chapitre 3, à la fin du chapitre 3, il dit qu'on est transformé de gloire en gloire. Moi, souvent, la vie chrétienne, ben, on sait, ça commence un petit peu par cette métamorphose. On passe d'une chenille à un papillon. Mais est-ce qu'on conçoit que la vie chrétienne, en fait, c'est un papillon qui refait un cocon et qui en sort encore plus beau? Et qui refait un cocon et qui ressort encore plus beau? Et qui refait un cocon et qui ressort encore, encore, encore de gloire en gloire, nous dit Paul. Enfin, la gloire, c'est déjà haut comme niveau, hein. Mais de gloire en gloire en gloire, enfin, vous imaginez le papillon le plus beau que vous pouvez imaginer, et maintenant imaginez quelque chose de 10 fois plus beau. Non, vous ne pouvez pas, mais ça, c'est la sanctification. Et Dieu, il veut nous émerveiller avec ça. Et ça, ce n'est pas la routine. Ça, ce n'est pas la routine. C'est l'œuvre de Dieu. J'ai un prof de philo, et je ne me souviens plus du philosophe qui citait, j'étais au lycée, et il disait, la vérité, c'est comme un cercle, et avec la connaissance, la philosophie, on arrive à presque tout comprendre. Enfin, on arrive proche de cerner les contours. Mais on ne peut vraiment jamais tout comprendre. Et je me souviens être en cours en me disant, mais si c'est ça la vérité, mais c'est vide, c'est plat. Tu peux rien connaître avec certitude. Et moi, quand je m'imagine la vie chrétienne, c'est... Ouais, peut-être ça commence avec un cercle tout simple, mais un cercle peut-être qui est un trou pour aller faire de la plongée. Et ça commence avec une vérité toute simple, Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et là, tu plonges. Et plus tu vas en profondeur, plus tu t'aperçois que c'est grand, qu'il y a des merveilles, que c'est magnifique. Paul avait compris que si on veut avoir une vie chrétienne riche, il faut qu'on s'accroche aux vérités et aux promesses simples de l'Évangile et les sonder en profondeur. Et pour Paul, c'est simple. Si Christ est mort pour nous, ben nous aussi, on meurt à notre volonté. Et on s'engage pour lui. On s'engage à le suivre pour lui. Et ça arrive sur notre dernier point. Que l'engagement du chrétien, c'est la beauté de l'adoration de Christ. L'engagement du chrétien, c'est la beauté de l'amour du Christ, c'est la beauté des convictions de Christ, et finalement, c'est la beauté de notre adoration pour Jésus-Christ. Verset 15. S'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. On ne vit plus pour nous, mais pour Christ qui est ressuscité pour nous. L'engagement du chrétien, c'est une réponse à ce que Christ a fait. C'est une réponse à ce que Christ a fait. Christ, il est venu, il a quitté son ciel pour venir sur terre parce que notre volonté ne nous permettait pas d'être heureux. Parce que notre volonté ne nous permettait pas d'être épanouis. Parce que notre volonté ne nous permettait pas de connaître la paix sur terre. Et c'est parce que notre volonté était insuffisante que Christ a tout sacrifié pour venir nous sauver. Et c'est pas pour dire, bon, bah voilà, c'est bien, je t'ai sauvé, continue mon grand. Fais ce que tu veux. Non. Jésus est venu pour nous révéler la volonté de Dieu, pour qu'on puisse y vivre pleinement dedans. Et quand on regarde ce que la Bible dit de la volonté de Dieu, mais c'est juste à une autre échelle que la nôtre. La Bible nous dit que la volonté de Dieu, c'est une force incomparable. Par la volonté de Dieu, le monde a été créé. On lit en Apocalypse 4. Par la volonté de Dieu, l'histoire du monde est décidée d'avance. Ésaïe 46. Par la volonté de Dieu, la parole de Dieu est exécutée. Ésaïe 55. Par la volonté de Dieu, tous les détails de notre vie, même les plus infimes, sont contrôlés. Chaque cheveu de notre tête est compté. Par la volonté de Dieu, toutes les circonstances de Dieu sont régulées. Qu'on dise, si c'est sa volonté, nous pouvons faire ceci ou faire cela. Romains 9, verset 19, nous dit que sa volonté ne peut pas être résistée. Jésus disait que sa nourriture, c'était de faire la volonté de Dieu. Celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement, entre dans la famille de Dieu. Et la volonté de Dieu a pour but ultime le salut de l'homme, son bien et l'accomplissement des promesses de Dieu. Quand on regarde à ce que la volonté de Dieu accomplit, mais qui sommes-nous pour rentrer en compétition ? Et dire, ben finalement, Dieu, ouais, je vois ce que tu dis pour moi, mais écoute, c'est des bonnes suggestions, mais moi, je pense que je peux mieux faire pour ma vie. Mais l'engagement chrétien, il est beau parce qu'il va rejeter une volonté moindre pour une volonté qui, elle est belle, elle est magnifique, elle est grandiose, elle est glorieuse. Et c'est une volonté qui va mettre Christ au centre. Si je devais résumer la volonté de Dieu en deux mots dans la Bible, ça serait Jésus-Christ. Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde ? Pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde ? Parce qu'il s'ennuyait ? Colossiens 1, verset 16, il a créé pour qui ? Pour Christ ? Pour Christ et par Christ. En Hébreux 1, 2, il est écrit que Christ est l'héritier de toutes choses. En Éphésiens 1, 10, il est écrit qu'un jour, tout sur terre et dans les cieux vont être réunis en qui ? En Christ. Tout a été créé pour Christ. Et un jour, tout sera offert à Christ. On le voit, c'est l'accomplissement des Écritures. Quand on arrive à la fin, Apocalypse, versets 7 et 8 du chapitre 19, réjouissons-nous, soyons dans la joie, rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau. Son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. À la fin de l'histoire, on va voir la volonté de Dieu finalement accomplie. Dans la perfection, on va voir tous les croyants de tous les âges vont être réunis et unis pour être offerts à Christ dans une perfection mais absolue. Et ça, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de préparer une épouse pour son fils. Une épouse qui va être digne, une épouse qui va être dans cette relation, cette alliance engagée, riche en amour. Et la volonté de Dieu pour chaque chrétien, enfin, la volonté générale, on le voit dans le mandat missionnaire, c'est on fait des disciples. C'est que les gens soient sauvés et que les gens grandissent dans leur foi. Enfin, c'est le résumé de la volonté de Dieu. En gros, Dieu, il a un plan pour vous, c'est que vous deveniez parfait. Enfin, c'est quand même génial qu'il y a quelqu'un qui est absolument résolu dans son cœur de vous rendre aussi beau que possible, aussi épanoui que possible, aussi bien dans votre peau que possible, aussi parfait que possible. Ça, c'est le cœur de Dieu. Et c'est le centre de sa volonté. Et puis notre monde, c'est aussi le reflet d'une promesse qui a été faite à Christ. En psaume 2, versets 7 et 9, il est écrit « Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. » Dieu le Père a fait cette promesse à son fils qu'un jour il lui donnerait le monde, et il va lui donner un monde parfait. Et ça, c'est ce que Dieu va accomplir. C'est sa résolution, c'est son engagement. Il nous donne le privilège de pouvoir participer à sa volonté. C'est juste génial. C'est juste génial. Le monde est le résultat de l'amour le plus incroyable jamais imaginé. Un père va créer un monde pour son fils. Un univers entier par amour pour son fils. Il va le préparer pendant des millénaires pour qu'un jour ce monde soit complet. Sans tâche, prêt. Mais ce qui est frappant dans ce passage en Apocalypse, c'est que comment est-ce qu'elle est prête, l'épouse ? Parce que Dieu claque des doigts. Qu'est-ce que ça dit la fin du chapitre du verset 8 ? C'est quoi la beauté de l'épouse ? Ce sont les œuvres des saints. Et ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, mais Dieu veut nous utiliser à nous. Quand on met notre volonté au service de sa volonté, pour pouvoir produire une gloire éternelle, qui est le reflet d'une épouse parfaite qui va être offerte à Christ. Et il nous utilise à nous aujourd'hui. L'engagement chrétien est juste d'une beauté incroyable. Et c'est pour ça que je vais vous encourager. La Bible ne nous dit pas qu'on ne sera pas fatigué quand on sert Dieu. Vous imaginez à quel point Dieu se réjouit quand on fait sa volonté ? On est en train de préparer ce cadeau pour son fils. Ça réjouit son cœur. Et puis nous, enfin, c'est d'une beauté incroyable. Amen. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, à chacun, tu nous as donné des dons différents, des appels différents, des engagements différents. Et je te prie de nous encourager, Père Céleste, à vouloir persévérer, parce que cet engagement, il est beau. Il est le reflet de l'amour le plus beau, celui de l'amour engagé, l'amour résolu. C'est comme ça que toi, tu aimes. Et je te prie, Père Céleste, de nous encourager à imiter cet amour. Donne-nous d'être des hommes et des femmes de conviction, qui puissions vivre différemment dans notre génération, en reflétant ton amour à toi, à une génération qui en a tellement besoin. Père Céleste, de nous d'être engagés, de nous d'être fidèles, de nous de suivre ta volonté. Au nom de Jésus. Amen.